Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons sur la vertu de prudence dont je vous ai dit qu'elle était particulièrement importante et qui est une des vertus certainement les plus malmenées aujourd'hui. La difficulté, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vient de ce que c'est une vertu morale, mais également intellectuelle. Et surtout, qu'elle s'apparente à l'art, lequel ne s'apprend pas dans les livres. Et la vertu de prudence est en grande dépendance, en totale dépendance des principes, et ça, les principes, oui, cela s'apprend dans les livres ou dans le catéchisme, mais elle met en application, et pour cela, il faut une grande formation, il faut de l'expérience, et ce n'est pas simplement avec un sermon que je pourrais vous donner comment on pratique la prudence, les conclusions de la prudence. C'est évident qu'on ne peut pas donner d'avance les conclusions, sinon ça ne serait plus de la prudence. Un des grands saints qui a su former les fidèles à la prudence est Saint Ignace de Loyola. Avec ses exercices spirituels qu'on a tendance à voir, je crois, d'une toute autre manière. Exercices spirituels pour apprendre à se déterminer soi-même, tel est le titre. Se déterminer, c'est-à-dire exercer la vertu de prudence. Saint Ignace commence avec son principe et fondement en posant ce premier principe que tout dans la vie est fait pour un but et que notre but à nous, c'est le salut. Puis la deuxième partie du principe et fondement, c'est que toutes les choses qui sont sur la terre nous ont été données pour assurer notre salut et que par conséquent, nous devons les utiliser pour autant qu'elles favorisent notre salut et nous devons les écarter pour autant qu'elles lui nuisent. Un des premiers problèmes, c'est que les choses, comme nous sommes très matérialistes, nous avons tendance à voir des choses matérielles, des voitures, des maisons, des champs, mais il n'y a pas que cela, il faut également compter parmi les choses l'amitié, les études et toutes choses semblables. C'est ce principe qui est particulièrement malmené aujourd'hui. On se débrouille pour s'arranger, pour essayer de sauvegarder le principe, mais sans l'appliquer. Puis, Saint Ignace, dans sa première semaine des exercices, commence par déblayer le terrain en faisant comprendre la gravité du péché. Et en ce qui nous concerne, cette semaine, enfin, puisqu'il prêche ses exercices en 4 semaines, normalement, même si on les réduit à beaucoup moins d'habitude. Cette première semaine, c'est-à-dire cette première phase des exercices, va nous montrer que la suprême imprudence, c'est le péché. Et nous pouvons retourner la proposition, le péché est ce qu'il y a de plus imprudent. Cela paraît évident quand on le dit comme cela, mais hélas, ça n'est pas évident dans la vie. Combien de fois nous-mêmes, il nous arrive de pécher, sachant que ce n'est pas bien, sachant que cela ne va pas dans le sens du salut, notre salut éternel, et cependant nous posons l'acte mauvais. Saint Ignace, en nous faisant méditer sur le péché, car la première semaine est beaucoup plus une méditation sur le péché qu'une méditation sur l'enfer. L'enfer n'est là que comme un garde-fou, il le dit d'ailleurs lui-même expressément. Non, il fait méditer sur le péché. Par rapport à quoi? Par rapport à son principe et fondement, par rapport à l'exercice de la prudence. Lorsqu'on a compris cela, alors on sort du péché et on va commencer à vivre pour Dieu. La méditation très célèbre de l'appel du Christ roi va nous montrer qu'on ne peut pas échapper à s'engager. Il n'est pas prudent de ne pas s'engager. Saint Ignace nous donne là la pratique très concrète de ce que Saint Thomas énonce en théorie, mais une théorie concrète également. Il dit l'acte le plus important de la vertu de prudence, c'est de se décider à agir, c'est d'agir. Parce que celui qui a vu et qui n'agit pas est suprêmement imprudent. Or, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons tout aujourd'hui contre la vertu de prudence. Mais chez les bons tradis, excusez-moi pour le néologisme tradit, chez les bons chrétiens d'aujourd'hui, depuis que je suis jeune, je vois cela. On critique le concile, on critique la nouvelle messe, on critique le curé, on critique ceci, mais on reste. Vous avez aujourd'hui une majorité de fidèles dans la fraternité Saint-Pédis qui critiquent, qui voient ce qui ne va pas, mais qui restent. C'est-à-dire qui ne se commandent pas à eux-mêmes, qui n'enclenchent pas l'action qui devrait dépendre, qui devrait découler des constatations qu'ils ont faites. Et lorsque Saint Ignace nous fait entendre l'appel du Christ roi, il nous montre qu'une fois qu'on a vu, il faut s'engager. Il nous prend l'exemple d'un roi qui pourrait être Saint Louis appelant ses chevaliers, ses barons à la croisade. Mais on peut prendre beaucoup d'autres exemples. Et lorsque je prêche les exercices, je ne manque pas de rappeler l'exemple de Catelineau, de La Roche-Jacquelin, et puis plus près de nous, de ces officiers qui, sortant de la guerre d'Indochine, ont tout fait pour éviter de perdre ensuite l'Algérie. On n'est peut-être pas dans un domaine surnaturel avec la guerre d'Algérie, comme on l'est avec la Vendée militaire, n'empêche qu'on est bien dans la prudence. Ce sont des héros. Et pourquoi font-ils figure de héros? Parce qu'ils ont mis en œuvre leur foi, leur conviction, dans un monde qui avait peut-être des convictions, mais ne les mettait pas en œuvre. Une fois qu'on s'est engagé, Saint Ignace nous met sous les yeux un modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ, tout d'abord dans les mystères de sa vie cachée. Si Dieu nous avait consultés, imaginez, mes bien chers frères, que Dieu vous consulte. Voilà, l'homme a péché, j'ai décidé de le sauver. Déjà, n'aurions-nous pas été étonnés que Dieu décide de sauver l'homme? Est-ce que nous n'aurions pas été, au contraire, des conseillers de justice. Le mal doit être puni. Nous qui avons tant besoin d'indulgence pour nous et qui sommes si sévères avec les autres. Et lorsque Dieu nous aurait dit « Je vais sauver l'homme en envoyant mon Fils éternel sur terre pour prendre un corps et une âme semblable au vôtre », alors là, ce n'aurait pas été de l'étonnement, mais de la stupéfaction. Comment, Dieu, vous voulez faire cela? Et imaginez que Dieu vous consulte et qu'il vous dise « Eh bien, puisque mon Fils doit venir sur la terre, à ton avis, comment doit-il procéder ?» Alors il est évident que nous aurions fait naître le Fils de Dieu dans un palais, nous aurions probablement convoqué la presse, nous aurions déroulé les tapis rouges, nous n'aurions jamais imaginé que le Fils de Dieu pût paraître sur la terre comme un simple petit enfant qui a été porté 9 mois dans le sein de sa mère. Nous l'aurions fait venir à l'âge adulte. Nous aurions étonné les peuples par l'apparition du Fils de Dieu. Nous aurions supplié Dieu d'attendre que la télévision puisse retransmettre l'événement en mondiovision. Non, mes frères, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. C'est tout le drame de notre époque. C'est comme cela que nous agissons, nous. On entend cela tout le temps. Le monde moderne, les moyens modernes, je ne vous ai pas dit qu'ils étaient mauvais, mais je vous dis qu'ils sont de purs moyens et que nous avons tendance, nous, à nous précipiter sur la puissance des moyens et à ne pas voir la leçon que nous fait Jésus-Christ. Qu'aurions-nous inventé encore? Et c'est exactement l'inverse que Dieu va faire. Il fait venir son Fils petit enfant, comme je vous l'ai dit. Au lieu de le faire venir dans un palais, il ne le fait même pas venir dans une maison, mais dans une simple grotte. Au lieu d'attirer les grands de ce monde, les premiers à recevoir l'annonce sont des bergers. Lorsque quelques rois viennent, ils viennent de fort loin, et ce n'est pas le peuple élu qui accueille notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela va continuer ainsi. Notre Seigneur, à un moment, va être très riche, je parle d'or, puisque les rois mages lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, je pense que ça n'était pas une simple pièce, mais probablement une cassette. Et ça a si peu d'intérêt, cet or, que l'Évangile ne nous raconte même pas ce qu'il est devenu. Ça n'a pas d'intérêt. Et notre Seigneur, qui est le Fils de Dieu, va vivre une vie d'enfant, une vie d'adolescent. Il va travailler avec son Père. N'imaginez pas, mes bien chers frères, uniquement les images d'Épinal du petit enfant Jésus avec les cheveux bouclés à 8 ans, tendant un marteau ou quelques clous à son père. Imaginez notre Seigneur, le Fils de Dieu, à 25 ans, à 27 ans, travaillant lui-même pour faire vivre la Sainte Vierge après le décès de Saint Joseph, ou bien aidant Saint Joseph déjà un peu âgé. Non seulement cela, mais Dieu a prévu, a voulu pour son Fils que non seulement il vienne dans l'humilité, mais que cette humilité soit pleine de contradictions. Non seulement il a choisi une grotte pour faire naître son Fils, mais cette grotte vient des contradictions qui s'opposent à notre Seigneur Jésus-Christ dès son entrée dans le monde. Non seulement il fuit en Égypte au milieu d'un peuple barbare, le plus barbare de tous les peuples barbares, sans aucune culture, avec beaucoup de techniques, un peu le monde moderne, capable de faire des grandes pyramides, et des grandes statues de dieux à tête d'oiseau, mais n'ayant aucune littérature, aucune, aucune. Non seulement le Fils de Dieu se trouve en Égypte, mais c'est le fruit de la persécution et c'est providentiellement qu'il échappa au massacre des innocents. Il y a là une grande leçon. Et saint Ignace va la résumer dans la méditation des deux étendards. Il montre notre Seigneur attirant d'abord à la pauvreté. De la pauvreté, il attire à l'amour des opprobres. Et de l'amour des opprobres, il attire à l'humilité. Et de là, dit saint Ignace, découlent toutes les autres vertus. C'est important de regarder et de bien voir, de bien constater l'ordre établi par saint Ignace. Et il suffit d'observer un adolescent, un adulte, qui que ce soit, pour voir que c'est effectivement dans cet ordre-là que le démon cherche à récupérer les âmes, les gens. Il les tente d'abord par les richesses qui paraissent anodines. Et il a fait aujourd'hui, dans son intelligence démoniaque, des richesses à deux sous, des richesses en plastique, que vous payez 20 €. Et on ne se rend pas compte qu'on s'habitue à ces richesses. Et de là, on refuse les opprobres et on tombe dans la vanité. Qu'est-ce que les opprobres ? Est-ce qu'il s'agit, mes bien chers frères, de chercher à aimer la folie pour le plaisir d'aimer la folie ? Évidemment non. Qu'est-ce que l'opprobre ? L'opprobre, c'est le déshonneur. Eh bien, le monde nous jette à la figure ce qui, pour nous, est notre plus grand honneur, comme si c'était un déshonneur. Le monde va nous traiter de coincés, d'arriérés. Le monde va traiter le jeune de puceau, de naïf. Le monde va nous affubler de toutes ces critiques. Pas charitable, pieux, que sais-je. Regardez comment on se moque de tous ceux qui ont des allures humbles, réservées. Et pourtant, tout cela est pour nous un honneur parce que c'est lié à l'humilité, à l'amour de Dieu et surtout, nous sommes fiers de notre foi et c'est cela que le monde nous reproche. Et par conséquent, l'amour des opprobres, c'est en réalité l'amour de Dieu, l'amour de la croix, l'amour des épreuves que notre Seigneur a subies le premier et que tout chrétien doit subir, car le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et comme saint Ignace veut être très concret pour vous faire pratiquer la vertu de prudence, au lieu de vous dire, comme saint Thomas, « Ayez l'amour de l'honneur de Dieu », il vous dit « Ayez l'amour des opprobres que notre Seigneur a subi, lui le premier. Cherchez les opprobres. Ne les cherchez pas. Non, pas les chercher. Ne les refusez pas. Trouvez les bonnes. On ne cherche pas l'opprobre pour chercher l'opprobre. Mais on sait qu'elle va venir et par conséquent, on fait tout pour ne pas y échapper. C'est en ce sens-là que je voulais dire, cherchez-la. Cherchez à ne pas y échapper. Cherchez à embrasser l'opprobre lorsqu'elle vous est donnée, comme notre Seigneur a embrassé sa croix. Dites-vous que l'opprobre est la première de toutes les croix. Dites-vous que, avant de porter des croix plus lourde, c'est celle-ci que le bon Dieu vous demande de porter. Et la plupart du temps, d'ailleurs, même lorsqu'il y a le martyr, le plus dur, c'est de subir le déshonneur. Parce que le martyr, dans le monde moderne en tout cas, est souvent déshonoré aux yeux du monde. Je dis bien aux yeux du monde. Je suis obligé d'abréger ce sermon. Pas d'abréger, de pas faire trop long. Je termine sur la troisième semaine de Saint Ignace, qui est tout entière consacrée à la crucifixion, la passion, la crucifixion. Et là, nous arrivons à un aboutissement. Nous savons enfin ce qu'est la vertu de prudence. La grande prudence de notre Seigneur, c'est d'avoir choisi la croix là où le monde lui aurait conseillé exactement l'inverse. Le grand acte de prudence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la croix. Et cette prudence nous déconcerte. Et c'est pour cela que nous avons tant de mal à être prudents, parce que nous nous rendons bien compte qu'au bout de chaque acte de prudence se trouve la croix. Lorsque nous voulons être fidèles à nos convictions, nécessairement nous rencontrons le monde sur notre route et il n'est pas là pour nous aider. Nécessairement, lorsque nous posons le premier acte d'une tenue vestimentaire, le premier acte d'un choix pour aller à la messe ou ne pas y aller, le premier acte de fidélité à Mgr Lefebvre ou à Mgr Williamson, lorsque nous posons le premier acte de choix d'une école, lorsque, de façon très surprenante, nous fuyons une école catholique pour un lycée parce que nous voulons apprendre le combat à nos jeunes et que nous nous rendons bien compte qu'au lycée, il apprendra à se battre très tôt et il aura des convictions fortes. Alors non seulement le monde s'oppose à nous, mais même les amis qui nous disent « tu es fou ». Et c'est vrai, nous sommes fous. Nous sommes fous de la folie de Dieu. Nous sommes fous de la folie de la croix. C'est pour cela qu'on ne nous comprend pas. Voilà, mes bien chers frères, méditez bien là-dessus. Saint Ignace ne fait pas que d'enseigner, il nous fait méditer, il nous fait contempler, et il nous fait nous pénétrer de tout cela. Et c'est ainsi que vous entrerez dans la quatrième semaine qui sera la semaine de la résurrection. Et à ce moment-là, ce sera la joie là où nos adversaires seront dans la détresse. À ce moment-là, ce sera le triomphe de la résurrection jusqu'au ciel, l'éternité bienheureuse, là où le monde se rendra compte que sa fausse prudence n'a pas été plus efficace que la durée d'une vie, et encore. Demandez à la Très Sainte Vierge, Virgo Prudentissima, de vous faire pénétrer dans toutes ses splendeurs, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.